L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là. Donc c'est un épisode un peu particulier parce qu'on est au Podcast Festival, donc on est en live, ce qui n'est pas quelque chose que je fais de manière régulière. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde, qui est le développement personnel. Moi, j'ai tendance à parler de lien à soi plus que de développement personnel, parce que le développement personnel, c'est quand même quelque chose qui est dans la performance, alors que j'ai la tendance à penser que on ne doit pas justement être dans la performance. Et pour ce faire, je reçois Clotilde Doucelier, qui a un podcast qui s'appelle « Change ma vie ». On se connaît quand même pas mal. Et donc, on va parler pendant 20 minutes, une demi-heure, de pourquoi ça se développe autant dans nos sociétés, pourquoi on en a autant besoin, mais aussi sur pourquoi toi, tu es allé dans le développement personnel et tous ces sujets qui vont tous vous passionner. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour Clotilde.
Bonjour Greg.
Ça va?
Ça va très bien.
Pas trop impressionné par le monde?
Non, ça va, ils ont l'air gentils.
Donc la première question évidemment c'est comment toi tu es arrivé à cette méthode et pourquoi tu t'es intéressé au lien à toi?
Alors moi je n'ai pas du tout eu de relation avec le développement personnel jusqu'à un âge assez avancé de ma vie. J'ai découvert le développement personnel vers le milieu de ma trentaine, j'ai 40 ans aujourd'hui. En fait, moi, je suis quelqu'un, je me suis toujours posé énormément de questions. J'ai toujours beaucoup vécu dans ma tête, mais je me souviens, étant petite, je me posais énormément de questions, et en particulier beaucoup de questions sur la différence entre ce que je percevais de ma vie intérieure et ce que je percevais de la vie intérieure des autres. Je regardais beaucoup les adultes, je regardais beaucoup les autres enfants, en essayant de comprendre qu'est-ce qui les animait par rapport à ce qui, moi, m'animait. Et j'avais une sensation de... Enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était différent pour moi et pour les autres. Donc évidemment, quand on est enfant et qu'on a l'impression d'être différent des autres, même adulte d'ailleurs, c'est assez anxiogène. C'est-à-dire qu'on n'est généralement pas très content de... Enfin, c'est généralement pas une constatation qui est réjouissante. Et donc je me suis posé beaucoup de questions et ça m'a plutôt amené à des outils de type psychothérapie. Donc je suis allée voir plusieurs psys au fil de ma vie, à des moments où je sentais qu'en fait, j'arrivais à des points d'incompréhension en fait de comment est-ce que j'abordais le monde, et j'avais l'impression que voilà, c'était comme s'il y avait quelque chose qui était pas, c'était pas fluide pour moi. Alors même que sur le papier, j'ai toujours très bien réussi à l'école, j'ai grandi dans une famille qui était tout à fait j'ai été aimée, choyée, enfin il n'y avait aucun problème extérieur, mais j'avais cette espèce de difficulté à me sentir complètement bien là où j'étais.
Et c'est d'autant plus compliqué d'ailleurs quand tu n'as rien a priori qui te pose problème d'avoir un problème en l'occurrence, non?
Exactement, oui tout à fait, parce qu'en fait je me disais mais en fait sur le papier j'ai pas de problème, donc je suis allée voir des psys avec qui on cherchait des problèmes, et donc si on cherche des problèmes on arrive à trouver des problèmes. Mais en fait, ça ne me satisfaisait pas parce qu'il y avait une démarche qui était à la recherche de problèmes et ça ne revenait jamais à trouver des solutions. Et donc, je me connaissais très bien, je connaissais très bien mon passé, tout ça. Mais ça ne me donnait pas de clé pour changer ou pour évoluer ou pour faire différemment. Et donc, c'était assez frustrant pour moi. Et ce qui s'est passé vers le milieu de ma trentaine, c'est que par le biais de podcasts, parce que j'écoutais beaucoup de podcasts, j'ai vécu aux États-Unis à la fin de mes études. Et donc en rentrant en France, j'ai écouté d'abord des podcasts pour réécouter c'était ce qui s'appelle le catch-up radio, pour écouter des émissions de radio que j'écoutais aux États-Unis. Et puis de fil en aiguille, comme la production de podcasts aux États-Unis s'est beaucoup développée, commençait à parler de plein de sujets hyper intéressants, enfin qui m'intéressaient beaucoup. J'ai écouté de plus en plus de podcasts, autour de la cuisine parce que j'étais auteur culinaire, autour du business parce que j'étais en freelance, autour du processus créatif parce que ça faisait partie de mon activité. Et en fait, tout ça a tous ces domaines-là convergeaient vers des questions d'état d'esprit. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand on veut développer un business, quand on veut avoir un processus créatif, en fait, tout part de ce qu'on pense de soi et de ce qu'on pense des autres.
Bien sûr.
Et c'est par ce biais-là que je suis arrivée à des podcasts de développement personnel et de coaching en particulier, qui, en fait, ont complètement changé ma façon de voir, en fait, m'ont vraiment donné les clés que je cherchais depuis des années et des années pour simplement comprendre comment ça marche à l'intérieur de notre tête. Et ça, je trouve ça dingue de ne l'avoir compris qu'à 35 ans.
Mais c'est un processus assez classique, non, de faire ça avec l'âge. Je pense que c'est difficile de s'intéresser à ces démarches-là quand t'es plus jeune. Enfin, c'est souvent avec l'âge qui...
J'ai énormément de messages et ça me réjouit de jeunes femmes et de jeunes hommes qui me disent j'ai 19 ans et je découvre ton podcast. Wow. et ça m'aide beaucoup. Et je me dis, mais alléluia, formidable. Enfin, ouais. Je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner la vie de personnes qui à 18 ou 19 ans, découvrent ces outils-là.
Ouais, parce que l'alignement, il se fait souvent plus tard. Et alors, du coup, pourquoi... Brooke Castillo, enfin, pourquoi cette technique-là en particulier? Toi, tu es assez proche de cette personne qui est américaine. Mais...
C'est ça. Donc, Brooke Castillo, elle est coach, c'est une américaine qui a depuis plusieurs années maintenant un podcast qui s'appelle The Life Coach School Podcast. Et en fait, de fil en aiguille, je suis tombée sur son podcast. J'ai écouté un podcast, je pense que son podcast existait depuis un an et demi, deux ans au moment où je l'ai découvert. Et je ne sais pas, je pense qu'il y a des espèces de hasards qui n'en sont pas. Je suis tombée sur... voilà, elle est très, très américaine. Donc, par chance, moi, ça ne me rebute pas. Mais au début, je me disais, waouh, elle est quand même hyper américaine. mais le fond de ce qu'elle disait, je ne sais pas, ça m'a interpellée. J'ai écouté... tous ces épisodes de podcast en l'espace de trois semaines. J'ai binge-listené genre un an et demi de ces podcasts. Wow. En l'espace de trois semaines, c'était l'été 2016. Et en trois semaines, elle a changé ma vie. C'est-à-dire qu'en trois semaines, ce qu'elle expliquait, en fait, mais c'est comme si dans ma tête, c'était un peu un jeu de Tetris. D'un coup, tchouk-tchouk-tchouk, j'ai compris. J'ai eu une espèce d'illumination et... En fait, d'un coup, toutes les questions que je me posais, je n'avais pas forcément les réponses, mais au moins, je voyais le début du commencement de comment les trouver.
Et là, la question que tout le monde se pose, c'est « Mais qu'est-ce qu'elle a compris que moi, je n'ai pas compris ?»
Alors, en fait, c'est, ça se résume de façon assez simple. C'est qu'en fait, personne ne m'avait jamais expliqué que nos pensées créent nos émotions. Mmh. Donc moi, en fait, j'avais vécu ma vie en étant très sensible à mes émotions, à ressentir beaucoup d'émotions, des émotions qui étaient très agréables et puis des émotions qui étaient très désagréables. Et en fait, j'avais l'impression que ces émotions m'arrivaient et qu'il fallait que je me défende de quelque chose. Enfin, je me sentais complètement... j'avais l'impression de subir mes émotions et c'était assez déroutant et assez pénible parce que, du coup, on se met dans une posture qui est défensive ou réactive en se disant « il faut que je me protège du monde extérieur qui crée ces émotions en moi ». Et donc, on passe son temps à vouloir changer le monde et les gens pour se sentir bien. Ouais. Et ça, c'est perdu d'avance.
Bien sûr. Et en plus, ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'on fait aussi une projection de ce que les autres pensent. C'est-à-dire qu'en fait, comme on n'est pas les autres et qu'on a tendance à calquer notre modèle sur les autres, on a tendance à se dire « oui, mais il doit se dire ça ou elle doit se dire ça », alors qu'en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, les autres ont une réalité qui est juste différente. Et en réalité, quand tu as une relation à deux, qu'elle soit amoureuse ou pas amoureuse, en fait les deux personnes vivent une relation qui n'a rien à voir finalement.
Oui, c'est ça. Et ce que j'ai aussi beaucoup appris dans la suite de ça, parce que donc ça m'a tout de suite passionnée, donc j'ai lu énormément de choses là-dessus, et en fait j'ai à force de lecture et de me mettre au contact d'un certain nombre d'enseignements autour de ça, en fait j'ai beaucoup mieux compris comment fonctionne le cerveau humain. Et pas au sens les neurones, tout ça, même si ça en fait partie, mais cette idée que toutes les pensées que nous présente notre cerveau ne sont pas la réalité, c'est-à-dire nos pensées ne sont pas la réalité, et ça aussi, j'avais toujours pensé que ce que me disait mon cerveau, c'était vrai, et que je ne pouvais donc pas faire autrement que de voir les choses comme ça, puisque c'était juste la vérité. Et donc, en fait, ça, le fait que toutes nos pensées ne sont pas vraies, que nous ne sommes pas nos pensées, mais que les pensées qu'on choisit d'avoir et d'entretenir créent nos émotions, que c'est en fonction de comment on sent qu'on agit d'une façon ou d'une autre, et que c'est en fonction de comment est-ce qu'on agit qu'on va créer des résultats dans notre vie. En fait, ça, d'un coup, la mécanique de ça, je me suis dit, mais en fait, le monde entier fonctionne comme ça. J'avais l'impression qu'on m'avait donné les clés de
matrice,
l'univers.
Quoi.
Oui, exactement.
Et alors, c'est à ce stade que je te demande, mais c'est quoi le conseil pour justement te détacher de tes pensées ?
Alors, la toute première compétence à acquérir, c'est ce qui s'appelle, on appelle ça aussi la métacognition, qui est le fait de se rendre compte qu'il y a une partie du cerveau qui pense et qu'on a la possibilité aussi d'être dans notre cerveau et de regarder le cerveau qui pense. Et ça, c'est exactement ce qu'on nous apprend à faire dans la méditation, mais c'est pas forcément ce que tout le monde comprend. Parce que souvent, on pense que la méditation, c'est faire le vide dans son cerveau.
Ça n'existe pas.
Alors qu'en réalité, c'est plutôt se mettre... En fait, moi, j'aime bien imaginer comme une sorte de balcon, de plateforme de l'observateur qui est au-dessus. Et la capacité à vivre, à s'observer dans ses journées, à s'observer penser, à s'observer ressentir des émotions. En fait, le fait d'être un petit peu en permanence ou autant qu'on peut sur cette passerelle de l'observateur, ça permet d'avoir en fait une partie de soi qui est en paix, qui n'est pas menacée, qui n'est pas dans le tsunami, qui n'est pas empêtrée dans les histoires qu'on se raconte et qui simplement se dit, je suis en train de penser ça, je suis en train de me faire toute une histoire autour de ce truc, et du coup, sans surprise, je ressens de la peur, de la honte, de l'anxiété, de la panique. Mais je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je peux me regarder vivre. Et en fait, c'est de là que démarre, c'est uniquement si on arrive à faire ça, qu'on peut choisir son expérience.
Et est-ce que tu penses que ça peut permettre aux gens d'être heureux, ou en tout cas plus heureux? Enfin, moi, j'ai tendance à penser qu'on ne peut pas être heureux, c'est pas un état, le fait d'être heureux, on peut être juste plus heureux ou plus souvent heureux. Est-ce que ça aide à aller dans ce sens-là?
Alors, ce qui est rigolo, c'est que, en fait, le premier épisode de mon podcast s'appelle « La question du bonheur », mais qu'en réalité, ce n'est pas vraiment dans ces termes-là que je me pose la question. Moi, la façon dont je me pose la question, c'est plutôt... Pour autant qu'on sache, on a une seule vie. Pour autant qu'on sache, les journées qu'on passe, on ne les récupérera pas. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas se proposer de vivre ces journées de la façon la plus consciente et la plus intentionnelle possible pour ne pas être comme la plupart des gens, pas parce que ce sont des mauvaises personnes, mais simplement parce qu'on ne leur a pas expliqué comment faire autrement, pour éviter de vivre sa vie en autopilote avec en fait des schémas de pensée qu'on n'a pas choisis, des réactions qu'on n'a pas choisies, on se rend même pas compte qu'on est en train de choisir des réactions, et à mon sens, c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui se réveillent à un certain âge, pas forcément très avancé d'ailleurs, en se disant mais où est passé le temps? Parce qu'en fait, ils n'ont rien choisi. Enfin, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont fait des choix par défaut. Et donc moi, ce que je veux pour les auditeurs et les auditrices de mon podcast, ce que je veux pour les clientes que j'accompagne en coaching, c'est simplement ça. C'est simplement le fait de se dire, chaque journée que j'ai sur cette planète et dans cette dimension de l'existence, je vais me proposer d'en faire quelque chose qui ressemble le plus possible à ce qui me plaît, à ce qui m'enthousiasme, à ce qui m'intéresse, à la personne que j'ai envie d'être.
Et alors, du coup, je me pose la question, comment ça se fait? Moi, je sais que je lisais des bouquins de développement personnel il y a 10 ans, tu vois, les Edgar Tolle, etc. Et en fait, à l'époque, les gens me prenaient pour une sorte de... c'était un peu honteux, quoi. et aujourd'hui, en fait, tu vois, quand je parle de voyante ou d'astrologue ou de bouquins de développement personnel, les gens me demandent les numéros de téléphone. Il y a une vraie, vraie grosse différence entre aujourd'hui et il y a 10 ans. Qu'est-ce qui fait que ça s'est développé entre-temps, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi?
Alors, c'est multifactoriel et j'ai genre 1000 explications qui me viennent là, que j'ai envie d'aborder avec toi. Mais la première chose qui me vient, c'est cette idée que on a pendant longtemps... La culture prédominante, c'était une culture avec une énergie plutôt masculine, de la performance, de « moi, j'ai aucun problème, si j'ai besoin d'aide, c'est de la faiblesse, tout va bien, merci ». Et où le fait de se dire « en fait, pour moi, tout n'est pas si simple, pour moi, tout n'est pas si rose, pour moi, des fois, le soir, c'est compliqué, ou le matin, ou des fois, je me réveille et j'ai des espèces de bouffées d'anxiété ». En fait, pendant longtemps, le fait de le dire... C'était un peu suspect, comme pendant longtemps, c'était suspect d'aller voir un psy. On se disait, il est fou ou elle est folle. Et j'ai l'impression que ce discours-là a changé pour une variété de raisons. Et en fait, que cette idée de vulnérabilité et de se dire, OK, laissons tomber les masques. En fait, au bout du bout, on en est tous exactement au même point. C'est-à-dire, tout le monde a peur de ne pas être à la hauteur. Tout le monde a peur de passer à côté de sa vie. Tout le monde a peur de ne pas être aimé par les autres. Tout le monde a peur, tout le monde a peur. En réalité, tout le monde a peur. Exactement. Et donc, à partir du moment... où il y a des gens qui commencent à le dire il donne la permission à d'autres de le dire, et après c'est comme les dominos, voilà, qui se, et d'un coup on se dit ok, en fait on va juste se dire la vérité. On est tous, voilà, on a tous plein de questions, et ceux qui ne le vivent pas de cette façon-là, c'est pas qu'ils sont mieux ou c'est pas qu'ils sont moins bons, c'est que peut-être les questions qu'ils se posent, ils arrivent à s'en accommoder, ils ont trouvé des outils, et c'est super. Mais ceux qui se posent des questions dont ils n'ont pas de réponse, il y a plein de personnes auprès de qui ils peuvent tester des approches, tester des outils, lire des bouquins, et ensuite chacun fait son marché.
Et je pense que c'est important de dire en tout cas que c'est pas une course en avant, il y a pas de moi je suis plus développé, parce qu'en fait c'est justement complètement à l'inverse de tout ce que tu racontes, c'est-à-dire qu'on est tellement dans cette culture performative en fait, qu'on a tendance à dire mais moi je suis plus développé, je suis moins développé, toi t'en es où? Et en fait il y a pas de course, évidemment.
C'est-à-dire que si tu parles à des gens qui sont comment dire en anglais, enlightened, donc éclairés, enfin voilà, qui sont complètement alignés, qui sont beaucoup plus dans leur vrai eux et beaucoup moins dans leur ego. Si tu leur parles, ils éprouvent une sorte de bienveillance, de respect, de non-jugement. Et à partir du moment où tu juges le développement personnel de quelqu'un d'autre, c'est que tu n'as pas très bien compris le principe du développement personnel ou du lien à soi, ou en tout cas, cette idée d'arriver à être vraiment soi. Si on arrive à être vraiment soi, on n'a pas besoin que les autres soient... On n'a pas besoin de prouver qu'on est plus soi
c'est
que...
Ça,
enfin, non, mais c'est absurde.
Ça n'a aucun sens. Et tu disais tout à l'heure sur les raisons, est-ce que tu penses que le fait qu'on soit moins dans la religion fait qu'on a plus besoin de trouver des réponses soi-même? Parce qu'avant, finalement, la religion, en tout cas catholique en France, te donnait des réponses. Donc, il n'y avait pas de questions à te poser. Et c'est très compliqué, cette liberté, finalement, qui t'est donnée.
Oui. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose autour de ça, que pendant longtemps, effectivement, quand les sociétés étaient beaucoup plus dirigées, enfin les sociétés occidentales étaient beaucoup plus dirigées par une idéologie, une spiritualité qui donnait des réponses, ça avait au moins le mérite, alors il y avait tout un tas d'effets secondaires pas forcément géniaux, mais ça avait au moins le mérite de donner un sens, et les gens trouvaient des réponses. J'ai l'impression que la perte de prédominance de la religion a laissé la place à, d'une part, la voie de la science, des scientifiques, c'est-à-dire maintenant quand on cherche des réponses, on cherche est-ce qu'il y a des... Quels sont les scientifiques qui se sont posés la question, de quelle façon est-ce qu'on peut prouver des choses avec nos cinq sens, que dit la science là-dessus? Donc on cherche des réponses par le biais de la science. Et puis il y a aussi tout un tas de réponses qui ont été proposées par la société de consommation. Et donc si vous cherchez un sens, c'est qu'il vous manque la voiture, la cuisine et le sac à main.
Et ça, c'est un mythe extrêmement fort au XXe siècle, donc 21e, on est sur la fin, mais je pense que c'est un mythe très fort sur qu'est-ce que le bonheur, on l'a associé au succès, qu'est l'argent, qu'est le pouvoir, qu'est les possessions, et on se rend compte que finalement ce mythe ne fonctionne pas très bien. Il y a Jim Carrey qui a cette phrase qui dit « Je souhaite à tout le monde de devenir riche et de pouvoir acheter tout ce qu'ils veulent pour qu'ils se rendent compte qu'en fait ça ne fonctionne pas
». C'est ça. Et en fait, à mon sens, là où le fait de s'en remettre à la science avec un S majuscule, ou le fait de s'en remettre à la société de consommation avec un S et un C majuscule, la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est que c'est extérieur à nous. C'est-à-dire que les scientifiques je suis évidemment... c'est formidable, je suis ingénieur de formation. C'est pas du tout ça la question, c'est formidable, mais c'est juste qu'à partir du moment où on s'en remet à quelque chose d'extérieur à nous, pour donner un sens à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, on sait que ce sera toujours une quête perpétuelle, une fin qui ne sera jamais rassasiée, en fait.
Et alors, tu parlais tout à l'heure des personnes qui t'écoutent. Qui sont les personnes qui t'écoutent? Est-ce que c'est plutôt des femmes, des hommes? Dans les retours que... Alors, je sais qu'on n'a pas les stats, évidemment, sur les podcasts, en tout cas sur le sexe. Mais qui sont ces personnes, en tout cas dans les retours qualitatifs que tu peux avoir?
Alors, je pense que la grande majorité sont des femmes, mais c'est pas du tout exclusif. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de messages d'hommes qui m'écoutent. En fait, le podcast, il s'adresse vraiment à absolument tous les êtres humains qui ont un cerveau et qui comprennent le français.
Voilà.
Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de spécialité. Je pense que il y a une résonance plus particulière avec les femmes, d'une part parce que le logo du podcast est rose. Et donc, ça, je pense qu'il faut du coup des hommes qui acceptent de regarder, d'écouter un podcast dont le logo est rose. Je pense qu'il y a quand même une idée où la plupart des gens, quand on s'intéresse au développement personnel, il y a quelque chose de l'ordre de l'identification, et qu'il est vraisemblable que des femmes s'identifient plus facilement à moi et à mon message et à ma façon de m'exprimer. Et ensuite, moi plus spécifiquement dans mon accompagnement en coaching, je coach uniquement des femmes qui sont donc des femmes en couple qui travaillent et qui ont des enfants et qui ont des problématiques d'épanouissement au milieu de toutes ces casquettes. Donc il y a le podcast et puis il y a mon activité professionnelle qui découle du podcast. Donc le podcast, il est pour tout le monde. Le programme d'accompagnement, il est spécifiquement pour ces femmes-là.
D'accord. Assez intéressant. Je sais pas pour le coup ça. Et quelles sont les questions que on te pose en général? C'est-à-dire, toi évidemment, tu abordes des sujets au fur et à mesure, mais j'imagine que tu as énormément de retours sur Instagram, par mail, etc. C'est quoi les questions que les gens se posent en général, enfin, ou les questions que tu as le plus souvent?
Alors, j'ai beaucoup de gens qui me suggèrent des thématiques.
D'accord.
Donc une fois sur deux, la thématique a déjà été a déjà été couverte, parce qu'on en est à, je sais plus, 140, non, peut-être 120, 130 épisodes. Il y a beaucoup de problématiques qui me sont suggérées. Et en fait, ce qui est drôle, donc moi je les note parce que pour moi c'est vraiment important de proposer des épisodes qui correspondent aux questions que les gens se posent. Mais en fait, ce qui est toujours drôle pour moi, c'est qu'en fait j'ai toujours envie de dire non, mais en fait c'est juste, à partir du moment où tu as un problème, c'est un problème, c'est tes pensées qui créent tes émotions, et donc c'est quelque chose à voir avec tes pensées qui créent tes émotions. Et à aucun moment, parce qu'en fait c'est drôle, c'est comme si chaque personne qui a sa situation à elle particulière se dit non mais d'accord, je comprends que pour telle situation et telle situation ça marche, mais la mienne, ma belle-mère et mon boss et ma sœur, non mais moi j'ai vraiment non mais c'est juste, en fait c'est tes pensées, tes émotions. Donc en fait j'ai l'impression d'avoir déjà dit, à travers rien que les premiers épisodes du podcast, j'ai déjà donné beaucoup de choses, le secret, ouais, de l'univers. Mais après, je suis tout à fait d'accord pour faire un épisode sur spécifiquement le pardon, spécifiquement la colère, spécifiquement la bienveillance, spécifiquement le lâcher prise, voilà, l'amour, etc.
Et du coup, de ces thématiques-là, est-ce que tu en as vu qui justement ressortaient plus? Est-ce que, par exemple, le conflit, c'est quelque chose qui est plus... ou la solitude, parce qu'en fait je pense qu'il y a toute une question, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais en particulier dans les villes, les gens se sentent très seuls, en fait plus la ville est grande, plus on se sent seul, donc naturellement il y a vraiment une question de solitude pour tout le monde, et personne n'y échappe. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas parce que tu veux avoir X milliers de followers sur Instagram ou je ne sais quoi, que tu vas pas te sentir seul, c'est la même problématique pour tout le monde. Est-ce que tu as des thématiques comme ça qui ressortent plus souvent, ou c'est assez égal?
Je pense que la trame qui ressort de la grande majorité des questions qu'on me pose, c'est finalement, c'est proche de ce que tu dis, même si c'est pas formulé exactement comme ça, mais c'est le lien avec les autres. C'est les relations, donc c'est la relation de couple, les relations dans le travail, c'est les relations dans la famille, c'est les relations frères-sœurs, avec les ascendants, les descendants, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose autour du lien, et c'est pour ça que moi ça m'enthousiasme d'autant plus de proposer des outils et d'avoir l'impression de vraiment faire une différence dans la vie des gens, parce que j'ai vraiment la sensation que si on n'a pas... que finalement tout ce qui compte c'est l'amour, et qu'à partir du moment où on a entre soi et les personnes qui nous entourent plein d'obstacles qui nous empêchent de les aimer tels qu'ils sont, parce qu'on trouve qu'ils devraient être autrement, parce qu'on trouve qu'ils devraient faire plus d'efforts, parce qu'on trouve qu'ils sont toxiques, parce qu'on trouve que, on trouve que. En fait, si on peut arriver à juste déblayer ces obstacles-là et faire en sorte que les relations soient plus vraies, plus authentiques, et que les gens arrivent à y trouver plus de... arrivent à s'en nourrir davantage, moi, j'ai l'impression que c'est ça qui va sauver la planète.
Je suis assez d'accord. Tu sais, moi, sur ce podcast, finalement, je traite d'un triple lien, tu parles du mot lien, et pour moi c'est un mot qui est important, du lien à soi, du lien aux autres et un lien à la nature. Qu'est-ce que tu as envie de répondre aux personnes qui disent que travailler le lien à soi, donc le développement personnel, c'est une démarche qui est hyper individualiste, et que c'est parce qu'on n'a vraiment aucun autre problème à se poser, c'est que ça, pour vraiment s'intéresser à notre petit nombril?
Alors moi je pense que les gens qui pensent ça, c'est juste qu'ils n'ont pas compris comment fonctionnait l'être humain. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas... avec soi-même un lien de connexion, de compréhension, qu'on n'est pas dans sa propre équipe, en réalité, on ne va penser qu'à ça. Et donc, en fait, les gens qui pensent le plus à eux, c'est les gens qui sont mal. C'est les gens qui sont mal avec eux-mêmes parce que ça les préoccupe toute la journée. Les gens qui sont pas bien avec eux-mêmes, ils vont toute la journée, dans toute leur situation, en fait, la seule personne à laquelle ils pensent, c'est eux-mêmes, parce qu'ils sont très inquiets, parce qu'ils sont très anxieux, parce qu'ils sont très en colère, parce qu'ils trouvent que la planète entière est ils en veulent au monde entier, parce qu'ils trouvent que... Et donc, en fait,
c'est au contraire,
le premier chantier, c'est le lien à soi. On ne peut pas être présent aux autres si on n'a pas d'abord fait ce travail-là. On n'a rien à apporter aux autres si on n'est pas d'abord bien avec soi.
Et justement, moi je pense qu'effectivement, la première étape, c'est le lien à toi pour ensuite aller au lien aux autres et au lien à la nature. Mais qu'est-ce que tu penses du coup des personnes qui essayent de résoudre leurs problèmes en faisant du lien à l'autre, c'est-à-dire en allant aider les autres et du coup en ne s'aidant pas soi-même? Ou alors ils essayent de s'aider eux-mêmes en aidant les autres?
Moi, j'en vois les conséquences, c'est-à-dire que c'est toujours une démarche qui est perdante, parce qu'en fait, on ne peut pas donner aux autres ce qu'on ne reçoit pas, on ne peut pas donner aux autres ce qu'on ne se donne pas à soi, et donc c'est plein de bonne volonté, et ça part d'une très très bonne intention, mais si on donne dans l'espoir que ça nous nourrisse, en fait, c'est complètement à l'envers. Donc c'est toujours une stratégie perdante, et le problème que ça crée, c'est que ça amène à une espèce de sensation d'échec en se disant « mais j'ai donné tout ce que j'avais, personne ne m'a donné » et donc ça renforce une logique de victimisation et donc en fait à ce moment-là, il faut juste dire « ok, on arrête tout, regardons de quoi est-ce que toi tu as besoin et comment est-ce que tu peux te le donner à toi ?» En premier lieu, c'est-à-dire c'est pas le monde entier qui doit t'apporter ce dont tu as besoin, c'est toi qui dois le créer pour toi d'abord.
Comment tu... c'est quoi le conseil que tu donnerais si une personne devait se développer l'amour à soi, parce qu'en fait finalement c'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi la première étape? Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que, enfin, à quoi tu
Alors le tout premier exercice que je suggère d'ailleurs très tôt dans le déroulement du podcast et que j'invite vraiment à tout le monde à adopter, que j'invite tout le monde à adopter, c'est ce que j'appelle le flow de pensée, qui consiste simplement à retranscrire par écrit le flow de nos pensées. Parce que c'est vraiment, ça consiste à se mettre sur la passerelle de l'observateur. Et en fait, c'est comme si on était assis à la table de la cuisine avec la radio et on écoute la radio et sans juger, sans filtrer, sans débattre, etc. Juste, on écrit ce qui passe, voilà, la radio qui nous passe dans la tête, on retranscrit. Et ça, c'est vraiment la toute première étape parce que tant qu'on n'a pas accès à nos pensées, tant qu'on laisse ces pensées défiler par bribes, qu'on y croit, qu'on croit que c'est vrai, mais qu'en même temps on les regarde pas clairement, en fait on n'a pas prise, on n'a pas de prise sur ce qu'on pense, on n'a pas de matière sur laquelle travailler, et donc la première étape c'est ça, et ensuite probablement commencer à s'apercevoir que les pensées qui reviennent le plus, c'est des pensées de jugement de soi, c'est des pensées d'en vouloir aux autres. En fait, on commence à voir se dessiner des motifs et on commence à se dire « Ah bah tiens, je remarque que dans toutes les situations, ma façon de voir les choses, c'est que c'est Calimero ou c'est... » Voilà. Et donc, c'est simplement s'abstenir de juger à ce moment-là et se dire « Bah... si je vois les choses comme ça, ça va créer un résultat pour moi qui n'est pas génial, donc est-ce que je peux modifier ?»
Et d'autant plus, je pense que quand tu fais cet exercice, j'imagine que tu te rends compte que finalement, tu tournes quand même beaucoup en rond. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas tant d'idées qui passent. C'est toujours les mêmes.
C'est ça. Apparemment, on pense qu'on a à peu près 50 000 pensées par jour, mais qu'il y en a très peu qui sont originales, en fait. C'est 50 000 pensées par jour, mais tout le temps un peu les mêmes.
J'ai une dernière question, qui est toujours la même sur le podcast, qui est à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte?
Alors, je devrais le savoir, pourtant j'écoute ton podcast, j'aurais dû préparer cette question. En fait, moi, ce à quoi j'ai envie d'ouvrir la porte, c'est vraiment le... ou peut-être claquer la porte. J'ai envie de claquer la porte au jugement. Parce qu'en fait, ça paraît un cliché éhonté, mais en fait, plus j'accompagne de gens, plus je m'aperçois que c'est vraiment... C'est ça le poison de tout. Le jugement de soi, le jugement des autres qui empêche cette phase d'acceptation qui permet d'inventer la suite. Si on est dans le jugement, en fait, on est complètement toujours dans le rétroviseur et on se dispute avec la réalité et en fait, ça nous empêche d'aller de l'avant. Donc, simplement remarquer toutes les façons dont on juge tout le temps, y compris soi, à longueur de journée.
Et c'est hyper important, je pense, de se rendre compte qu'on a des biais cognitifs aussi. C'est-à-dire que les gens nous disent « Oui, mais moi, je suis pas comme ça. » Ou « Moi, par exemple, je suis pas raciste. » Ou « Moi, je suis pas machin. » Alors qu'en fait, en réalité, si, et c'est pas grave, en fait. L'important, c'est de le reconnaître, effectivement.
Super. Tout à fait.
Merci beaucoup, Clotilde.
Merci, Grégory.
On va passer aux questions-réponses.
Merci.
Merci beaucoup. Il y a un micro, il y a une question.
Bonjour.
Valentin.
Bonjour Valentin.
Quand vous dites, quand vous dites qu'il ne faut pas juger, le concept même de dire qu'il y a des gens qui sont éclairés, là, les enlightened, est-ce que ça ne veut pas dire que finalement il y a une sorte de jugement parce qu'eux sont au sommet de, de la hiérarchie de l'éclair, je ne sais pas comment dire, de l'éclairage de soi, quoi.
Alors, je pense que cette idée de jugement, ce qui est important à savoir, c'est que notre cerveau va juger jusqu'à notre dernier jour. Notre cerveau est une machine à juger, et une machine à interpréter et à juger en particulier. Est-ce qu'on est en sécurité ou en danger? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est un ami ou est-ce que c'est un ennemi? Donc, le cerveau n'arrêtera pas de juger. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait du jugement une fois qu'il a été formulé? Et je pense que ce qui se passe pour les personnes qui sont enlightened, j'en ai jamais rencontré personnellement, hein, mais j'ai lu des livres. En fait, ce que ces personnes-là arrivent à faire, c'est à être un peu en permanence sur la passerelle de l'observateur et à se dire, bah oui, bien sûr. Bien sûr que ma première pensée, c'est qu'un tel a fait comme ci et qu'il n'aurait pas dû faire comme ça et que machin est comme ci et, donc, et que moi-même, je suis trop comme ci ou trop comme ça. Mais en fait, c'est comme les nuages qui passent. Ils ne s'y attachent pas, ils n'en font pas toute une histoire et surtout, ça ne dirige pas leur vie et leurs actions.
Ça répond à ta question, Valentin.
Oui.
Merci.
Merci. Une autre question? Il n'y a pas de questions? Ah si.
Bonjour.
Bonjour.
Sandrine.
Oui, bonjour Sandrine.
Tu as parlé de l'écoute du podcast de Brooke Castillo. Est-ce que tu as aussi suivi sa formation ou tu as directement passé à la formation pour devenir coach?
Alors, j'ai été coachée par Brooke Castillo d'abord, et ensuite j'ai fait la certification donc de la Life Coach School. Donc j'ai fait le premier niveau de certification, et là je suis en train de faire le deuxième qui s'appelle le Master Coach Training donc pour avoir le niveau d'au-dessus.
Merci Sandrine.
Merci Sandrine. Une autre question. Faut pas hésiter, hein. Faut pas être timide. Il n'y a pas de mauvaise question.
Bonsoir. J'ai une question qui concerne les personnes qui, non pas sont contre le développement personnel ou l'idée que nos pensées peuvent influer sur le résultat dans notre vie, mais ces personnes qui n'ont pas idée, en fait, que ça puisse exister et qui, du coup, ne vont jamais venir écouter un podcast, quelle que soit la couleur du logo, ou même lire un livre sur le sujet ou écouter quelqu'un à un dîner parler de ce sujet-là parce que voilà, on est totalement bloqué. Comment on peut cibler en fait ces personnes-là finalement?
Alors, merci pour la question. En fait, moi, je les aime aussi, ces gens-là. Et je pense vraiment, enfin, moi, je suis pas du tout dans une démarche de prosélytisme ou d'aller les chercher. Je pense vraiment que chacun a son cheminement et que ces outils sont là que quand on en a, enfin, sont là que pour ceux qui en éprouvent le besoin ou que ça intéresse. Et que s'il y a des gens qui, toute leur vie, j'en connais plein, toute leur vie vivent d'une façon qui leur convient, trouvent des solutions quand ils ont des problèmes et ne demandent pas d'aide particulière, moi je vais pas aller chercher des gens dans la rue en leur disant mais vous savez que vos pensées créent vos émotions. donc en fait moi je crois vraiment que je me sens la messagère, c'est-à-dire que moi je diffuse mon message et je crois vraiment que les gens qui ont besoin de l'entendre l'entendront, que les gens à qui ça parle vont en parler autour d'eux et que autour d'eux, ceux qui ont besoin de l'entendre l'entendront, que ceux qui n'en ont pas besoin, peut-être pas maintenant, peut-être jamais, ne l'entendront pas et que peut-être que c'est 10 ans, 20 ans, 50 ans plus tard qu'ils se diront, parce que je pense qu'il y a toute une partie de choses, toute une partie des enseignements que je diffuse à travers le podcast, c'est probablement des choses qu'on m'a expliquées par le passé, c'est simplement que peut-être que ça m'est passé au-dessus de la tête parce que je n'avais pas eu les expériences ou je n'avais pas eu les enseignements qui me permettaient de comprendre ça à ce moment-là. Et donc il y a plein de choses que moi j'ai apprises où je me suis dit « Ah, mais c'est ça qu'on voulait dire !» Et en fait, j'avais jamais compris. Par exemple, le lâcher prise où j'ai fait une série de 3 épisodes, on m'a toujours parlé de lâcher prise et je disais « Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Et ça ne me parlait pas du tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Ah, en fait, c'est ça, je comprends. » Donc moi, c'est vraiment pas de... chacun fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, chacun fait son marché en fonction de ce qui lui parle. Et il faut se méfier de cette, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, moi ça a marché pour moi, et je vois un tel dans mon entourage qui a l'air malheureux, qui a l'air pas épanoui, et donc j'ai envie, et donc ça part d'une bonne intention, mais ça marche pas comme ça. C'est comme le sport, on peut pas forcer les gens à faire du sport. Si, enfin, si, ou c'est comme la danse, on peut pas danser les gens, on peut pas les obliger à danser, donc il faut qu'ils, qu'ils y viennent eux. Merci.
Merci. Merci. Il y avait une autre question, j'ai vu. Mais, ah.
Bonjour. Bonjour. Déjà, je veux dire que j'adore vos deux podcasts. C'est vraiment mes deux podcasts préférés. Voilà.
Merci.
Et je suis en train de commencer ce chemin de l'épanouissement personnel. Et je voulais savoir si, peut-être que ma question est un peu bête, mais est-ce que c'est un chemin sans limite, sans fin, et qu'on n'a jamais au bout, on se dit pas, bon, ça y est, j'ai trouvé, je me suis trouvée complètement. Ou...
Alors, la façon dont, dont ça se présente pour moi, et je pense, enfin, il n'y a pas de vérité absolue en la matière, mais moi, j'ai vraiment l'intuition que on, si on s'engage sur ce chemin, ça s'arrêtera que le jour où tout s'arrêtera. Je pense vraiment, en tout cas, c'est ce que je souhaite pour moi, parce que ce, que je, ce dont je m'aperçois, c'est qu'il y a une sorte de premier palier qu'on arrive à passer quand on arrive, en fait, à mettre en place suffisamment d'outils pour se sentir vraiment affranchi de tout un tas de schémas de pensée où au moins on les a compris et on comprend ce qui se passe. Et donc ça, ça fait comme une espèce de bouffée d'air frais où d'un coup on se sent vraiment aux commandes de sa vie. Mais une fois qu'on a dit ça, en réalité, comme l'être humain est fondamentalement aspiré au changement et à la croissance et à créer plus et à aller chercher d'autres, de nouvelles choses, en fait, c'est comme un oignon. À chaque fois qu'on enlève une couche de l'oignon, il y a d'autres couches en dessous. Et bon, un oignon, ça s'arrête, mais je pense que pour nous, ça ne s'arrêtera jamais.
Il y a une autre question par là. Ah, merci.
Bonsoir, bonsoir Guillemette. Je bonsoir, voulais apporter un témoignage parce que moi, c'est un ami qui très cher qui m'a envoyé les liens, le lien vers le podcast Change ma vie. C'est comme ça que je t'ai connue, Clotilde. Je te dis tu parce que j'ai l'impression de te connaître, comme tu me parles dans l'oreille depuis 120 épisodes maintenant. Ça fait un paquet de temps. Et moi, j'ai changé de vie grâce à toi. Et je voulais te le dire parce que je sais qu'il y a plein de gens qui font ce témoignage-là. Mais là, au moins, tu l'as en live et pas seulement sur, sur d'autres plateformes. Voilà, moi, j'ai changé de vie. Je suis devenue prof de yoga, coach. Alors, on ne peut pas tous être coach et prof de yoga. On en a discuté d'envelant, Grégory, avec le fondateur d'Ecosia, si je me souviens bien. Mais voilà, c'est peut-être le chemin pour aller ailleurs. Je sais que hier, avant-hier, tu diffusais une émission sur, enfin pas une émission, un podcast sur la maison intérieure, qui est la cartographie de notre notre intériorité. Et voilà, moi pour l'instant, j'en suis à la, je pense, j'étais dans la salle de classe, et puis là, je commence à aller parfois dans l'atelier pour travailler des choses. Enfin, ceux qui l'ont écouté le reconnaîtront. Et voilà, mais j'ai été dans la cave, j'ai été dans plein d'autres endroits que tu décrivais, dans le bas de la maison, et petit à petit on grimpe, et je voulais te remercier vraiment chaleureusement parce que grâce à toi, j'ai aussi essaimé ce podcast un peu partout, mes amies, quand elles allaient mal. Alors certaines sont montées dessus, enfin dans la machine, vers le mieux, la libération, le fait d'être soi et soi-même et librement et d'oser. Et là, moi, j'ose te témoigner. C'est quand même, enfin voilà, ça m'a demandé beaucoup de courage, mais je voulais le faire aujourd'hui. Et voilà, merci infiniment. Et je pense que voilà, le chemin est encore long, comme tu dis, ça finira au bout de sa vie, quoi. Et encore, ça perdurera parce qu'on plante des graines autour de nos enfants qui écoutent le podcast pendant que je fais la cuisine ou que je conduis la voiture, qui t'appellent Change mon slip. Excuse-moi. Tu écoutes encore Change mon slip ? Oui. Qui l'écoute. Voilà, mon mari aussi, qui est un peu hermétique, qui fait partie des gens qui disent quel intérêt, vraiment. Prendre des décisions, tu les prends tout seul. Voilà, donc merci infiniment. Vraiment.
Merci beaucoup, merci pour ce témoignage, ça me touche beaucoup. Merci Guillaume.
Une question juste à côté.
Bonjour à tous les deux, Hélène. Je suis aussi une grande fan de vos deux podcasts, évidemment. Je voulais savoir ce que vous pensiez un peu de la mode des podcasts, donc je dirais de la tendance des podcasts, à savoir... Qu'est-ce qu'il permet en tant que média par rapport à d'autres médias qu'on utilise aujourd'hui ? Et cette mode, peut-être, est-ce que vous avez une idée de ce vers quoi ça peut amener dans les années à venir ? en tant qu'influence.
Je vais peut-être répondre là-dessus. Je pense que l'oreille, c'est un média qu'on a vraiment sous-utilisé et qui permet un truc qui est très très particulier, qui est l'intimité. En fait, il y a vraiment un lien d'intimité qui se passe par la voix, qui est le cas quand une femme est enceinte et qu'elle parle, etc. Il y a déjà ça qui se passe dans le ventre. Et en réalité, avec un podcasteur ou une podcasteuse, il y a vraiment ce lien d'intimité qui se crée. Donc ça permet ça. Après, de manière plus factuelle, un podcast, ça répond à quoi ? Ça répond à une volonté d'en faire toujours plus. Donc c'est une injonction contradictoire, un podcast. Hein. Ça permet de faire du temps long et en même temps d'optimiser du temps quand on fait autre chose, en réalité. Donc il y a vraiment cette double contrainte. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Et après, donc ça permet ces deux choses-là, pour moi. C'est-à-dire, ça permet de rentrer en profondeur dans un monde où, de toute façon, notre attention à 100% est complètement saturée. Et du coup, on lit des titres, mais on ne va pas dans le contenu. On n'arrive plus vraiment à lire parce qu'on n'arrive plus à avoir cette attention disponible. Donc ça permet ça. Et ensuite, où est-ce que ça va? Je pense que ça va se développer énormément pour plein de raisons. La première, c'est que tous les gros acteurs du web, que ce soit Apple, Google, Spotify, vont à fond dessus pour plein de raisons qui ne sont pas nécessairement les meilleures, mais enfin, ils vont à fond dessus. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle les GAFA, décide du type de contenu que vous allez aimer. En fait, ils ont cette puissance-là. Et en fait, Netflix fait des podcasts. Enfin bref, vous allez aimer les podcasts. Et de plus en plus de monde vont aimer les podcasts pour la simple raison que vous allez en avoir de plus en plus avec une offre toujours plus qualitative, même si au début, ça sera en anglais, mais ça va arriver en français aussi, évidemment. Et puis, vos téléphones ont plus de mémoire. Aujourd'hui, tout le monde a des écouteurs sur les oreilles dans le métro, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans quand ça s'est lancé. Donc, ça va se développer encore énormément. Après, est-ce qu'on est dans une bulle ou pas? Ça, c'est un peu la question. Je pense qu'il y a une effervescence, mais aujourd'hui, il y a quand même très, très, très peu de podcasts par rapport au nombre de chaînes YouTube. Donc, si on regarde YouTube comme une sorte de référent, en réalité, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de place pour les podcasts. C'est pas parce qu'il y a un podcast de développement personnel qu'il ne peut pas y en avoir 50 autres, évidemment. Comme c'est le cas sur YouTube, il peut y avoir une personne qui parle de ça, mais en fait, il y en a évidemment beaucoup. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc.
Non, le facteur effectivement d'intimité et d'optimisation du temps, je pense que ça répond vraiment à des besoins. C'est vrai que quand on écoute un podcast, on a vraiment l'impression de connaître la personne. C'est ce que qui me disait. Enfin voilà. Et moi, mes meilleurs amis sont des podcasteurs que je n'ai jamais rencontrés, qui me parlent toutes les semaines dans mon téléphone.
Exactement. Une autre question. Ah, mademoiselle, madame. Oui, là.
Bonjour, moi c'est Christina. Je produis le podcast Expat Heroes, puisque l'expatriation est aussi un défi et un moteur aussi de développement personnel. Ma question, c'était sur... j'ai l'impression qu'en tout cas, les références de développement personnel se trouvent plutôt outre-Atlantique. Est-ce que vous avez des références plutôt en France? Enfin, moi, je suis branchée méditation, donc il y a Christophe André que tout le monde connaît, mais en développement personnel, j'ai pas d'autres références.
Alors, j'avoue qu'à titre personnel, j'ai une forte inclination pour l'école américaine du développement personnel. Pas que j'ai une mauvaise opinion des ouvrages de développement personnel en français, c'est simplement que moi, j'aime bien me nourrir de... En fait, j'ai toujours dans ma vie été un peu passeuse d'informations. J'ai eu longtemps un blog culinaire où je m'intéressais beaucoup aux tendances de ce qui se faisait aux États-Unis, où j'apportais un regard un peu transatlantique sur ces choses-là. Et moi, c'est une démarche qui me correspond, bien. J'ai l'impression qu'en digérant quelque chose d'une autre culture et en la proposant avec un regard culturel français, j'ai l'impression d'apporter un ton et une voix qui sont singuliers. Alors que si je lis des ouvrages écrits par des Français et que c'est pour redire quelque chose qui a déjà été dit par quelqu'un qui habite à peut-être deux rues de moi, j'ai l'impression que c'est moins riche comme contenu que je pourrais apporter.
Après il y a, y a Mathieu Ricard, évidemment, aussi, quand même. Et Edgar Tollet, de mémoire, il est allemand, il n'est pas américain, mais il parle en anglais, effectivement, ça a plus de... Rich, enfin ça permet de porter, voilà, merci. Il nous reste deux minutes pour une question, peut-être. Est-ce qu'il y a une dernière question?
Bonjour. Oui, bonjour. Du coup, je voulais juste demander. Donc, je suis sûre que le développement personnel, ça aide énormément de personnes. J'utilise certains outils moi-même. Cela dit, ce que moi j'ai un peu découvert à travers mon propre chemin, c'est qu'au début j'étais très bloquée sur ces choses que justement c'était tout dans moi, je crée mes émotions. Mais au fond, pour moi la psychologie m'a beaucoup plus aidée justement pour me dire qu'en fait il y avait plein de facteurs extérieurs aussi et que au fond on n'est pas seul, on n'est pas un seul individu avec nos propres pensées, mais on a aussi les actions des autres qui ont des impacts sur nous. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette interaction, en fait ? Et que peut-être aussi, c'est peut-être une approche peut-être plus individuelle, mais que la solitude que vous avez mentionnée aussi, c'est aussi par un manque de communauté, par exemple, dans les sociétés industrielles et modernes. Du coup, qu'est-ce que vous aurez à dire sur ce sujet, sur peut-être les limites du développement personnel, en fait, pour peut-être, je sais pas, atteindre le bonheur, la sérénité, tout ce qu'on cherche ?
Moi, j'ai plein de trucs à répondre.
Oui, vas-y, vas-y.
Je pense que, effectivement, tu as raison. En fait, le secret du sens dans la vie, en général, se fait dans le lien aux autres. Donc, c'est vrai que la société dans laquelle on vit, elle est compliquée pour ça, parce qu'en réalité, comme en fait, on a coupé tous les liens, que ce soit les liens avec la nature à travers les désherbants, enfin, les liens entre les plantes, mais aussi, en fait, on essaie de couper les liens, on a coupé les liens dans tous les sens. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué de trouver du sens dans sa vie parce que le sens, il se fait à travers les autres. Maintenant, par rapport à ce que tu dis, je pense que l'interaction avec les autres, elle est évidemment existante, mais la manière dont tu les vis, elle est personnelle. Et donc, ça dépend comment tu vas recevoir les choses. Ça t'appartient, en fait. Et je crois que on a tous des dark sides, on peut tous s'énerver, et ça existe et il faut en être conscient. Mais je crois que c'est vraiment la manière dont tu vas le vivre. Et le développement personnel, ça peut t'aider justement à mieux vivre les interactions avec les autres. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas gueuler sur un mec qui te coupe la route ou je ne sais pas quoi. Mais ça te permet de prendre un peu de recul sur les interactions extérieures, justement. Enfin, moi, c'est la manière dont j'envisage la chose.
Oui. En fait, pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt ou de bénéfice à opposer des démarches entre elles. Moi, j'ai vraiment le sentiment que chacun, en fonction du type de questionnement qu'il a, du type de difficulté qu'il rencontre et du type de personne qu'il rencontre sur son chemin, qui peut apporter des outils différents, compose vraiment l'approche qui lui convient. Moi, il se trouve que l'approche psychothérapeutique m'a aidée, mais que jusqu'à un certain point, et que les outils de coaching que je diffuse à travers Change Ma Vie m'ont aidée pour inventer la suite. Cela dit, ça m'a apporté beaucoup et ça apporte évidemment beaucoup à plein de gens. Il me semble que c'est pas la question, c'est pas l'un ou l'autre. C'est ce qui, toi, te correspond, ce qui, toi, t'aide et ce qui, toi, t'es utile, mais merveilleux.
On va devoir s'arrêter. Merci beaucoup à toutes et à tous.
Merci. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté Volant. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.